Washington Irving, comte de l'Alhambra, Mahomet Abou al-Ahmar. Après avoir entretenu si longtemps mes lecteurs des légendes merveilleuses de l'Alhambra, je me crois obligé de lui présenter quelques faits de son histoire, ou plutôt de celle des deux grands princes auxquels le monde doit ce monument de la magnificence orientale. Pour recueillir ces faits, je suis descendu des régions de l'imagination, où chaque objet prend une teinte poétique, et j'ai porté mes recherches au milieu des volumes poudreux de l'ancienne bibliothèque des jésuites de l'université. Ce dépôt d'érudition, jadis si célèbre, n'est plus que l'ombre de lui-même, depuis qu'il a été dépouillé, pendant l'occupation de Grenade par les Français, de ses manuscrits les plus rares et les plus précieux. Toutefois, on y trouve encore, parmi de volumineux écrits de polémiques jésuitiques, plusieurs ouvrages de littérature espagnole fort curieux, mais surtout un grand nombre de ces vieilles chroniques reliées en parchemin pour lesquelles je professe une vénération particulière. J'ai passé des heures vraiment délicieuses dans cette vieille bibliothèque, sûr que personne ne viendrait me troubler, et, fouillant à mon aise dans les tablettes dont les clés m'étaient confiées par une rare complaisance, car ces sanctuaires de la science renferment des objets bien capables de tenter l'étudiant, avide de connaissances inconnues aux vulgaires. Dans ces visites, j'ai noté quelques particularités sur les personnages que je viens de citer. Les Maures de Grenade ont toujours regardé l'Alhambra comme un ouvrage merveilleux et croyaient, d'après des traditions, que le roi son fondateur avait été savant dans la magie, ou du moins dans l'alchimie, par le moyen de laquelle il ramassa les sommes immenses nécessaires pour l'érection de cet édifice. Une vue sommaire du règne de ce prince expliquera le secret de son opulence. Le nom de ce monarque, tel qu'on le trouve écrit sur les murs de quelques-uns des appartements de l'Alhambra, était Abou Abdallah, c'est-à-dire le père d'Abdallah. Mais dans les histoires arabes de Grenade, il est toujours nommé Mahomet Abou al-Ahmar, c'est-à-dire Mahomet fils d'Al-Ahmar, et souvent par abréviation Abou al-Ahmar. Il naquit à Arjoua, maintenant Jaén, l'an de l'Hégire 591, et de l'ère chrétienne 1192, de la noble famille des Ben Nassar, ou enfants de Nassar. Ses parents n'épargnèrent ni soins ni dépenses pour le rendre digne du rang auquel ses richesses et la grandeur de sa race lui permettaient d'aspirer. Les Sarrasins d'Espagne étaient extrêmement avancés dans la civilisation, et dans toutes les villes principales, on pouvait trouver des institutions capables d'élever les jeunes gens destinés, par leur naissance, à remplir les emplois publics. Abou al-Ahmar, lorsqu'il eut atteint l'âge d'homme, fut nommé gouverneur de Jaén, et se fit grandement aimé du peuple par sa justice et sa bonté. Quelques années après, l'empire musulman en Espagne fut divisé par des factions, et plusieurs villes appelèrent Mahomet al-Ahmar au trône. Ardent, ambitieux, il saisit cette occasion de déployer ses talents avec éclat, parcourut le pays et fut reçu partout avec acclamation. Dans l'année 1238, il entra dans Grenade, au milieu des applaudissements enthousiastes du peuple, fut proclamé roi et devint bientôt le chef des Mahométans en Espagne, et le premier de l'illustre famille des Ben Nassar, qui y portait la couronne. Son règne fut une bénédiction pour ses sujets. Il donna le commandement des villes aux hommes les plus distingués par leur prudence et leur valeur, et les plus agréables au peuple. Il organisa une police vigilante, établit des règles sévères pour l'administration des lois. Le pauvre, l'opprimé, était toujours admis sans peine en sa présence, et il veillait lui-même à ce que les secours et la justice qui leur étaient dus leur fussent accordés. Il fonda des hôpitaux et des hospices pour les malades, les aveugles, les vieillards, et les visitait fréquemment, non avec appareil, mais à l'improviste, de manière à s'assurer par ses yeux que la conduite des administrateurs de ces établissements remplissait ses vues bienfaisantes. Il institua de plus des écoles qu'il inspectait avec le même soin. Il fit construire des boucheries et des boulangeries publiques où le peuple trouvait les objets de subsistance de première nécessité à des prix réguliers et ne pouvait être trompé sur leur qualité. Il fit venir d'abondants cours d'eau dans la ville et construisit des bains, des fontaines, ainsi que des aqueducs et des canaux pour arroser et fertiliser la Vega. Par ces moyens, la prospérité régna dans cette belle cité. Les commerçants encombraient ses portes et ses magasins étaient remplis des marchandises de tous les pays. Tandis que Mahomet gouvernait son beau royaume avec tant de sagesse et de bonheur, il fut soudain menacé des horreurs de la guerre. En ce temps-là, les chrétiens, profitant du démembrement de l'empire des Maures, regagnaient rapidement leurs anciens domaines. Jacques le Guerrier avait subjugué Valence, et Ferdinand le Saint portait ses armes victorieuses sur l'Andalousie. Ce dernier assiégea la ville de Jaén et jura de ne lever son camp que lorsqu'il aurait pris possession de cette place. Mahomet Abou al-Ahmar sentit l'insuffisance de ses moyens de résistance contre un roi de Castille. Prenant une résolution soudaine, il se rendit secrètement au camp des chrétiens et parut devant le roi Ferdinand. « Vous voyez, dit-il, Mahomet, roi de Grenade, je me confie à votre loyauté et j'implore votre protection. Acceptez tout ce que je possède et recevez-moi comme vassal de votre couronne. » En parlant ainsi, il fléchit le genou et baisa la main du roi en signe d'hommage. Le roi Ferdinand, touché de cette preuve de confiance, ne voulut pas être vaincu en générosité. Il releva son rival, l'embrassa comme un ami, refusa ses trésors, mais l'accepta pour vassal et lui laissa la souveraineté de ses états, sous les conditions de lui payer un tribut annuel, d'assister au Cortés comme l'un des nobles de Castille et de le servir à la guerre avec un nombre déterminé de cavaliers quand il en serait requis. Mahomet ne fut pas longtemps sans être appelé à remplir la dernière et la plus dure de ses conditions. Et il aida Ferdinand dans son fameux siège de Séville. Le roi Maure sortit de Grenade avec 500 cavaliers choisis qui n'avaient pas leur pareil dans le monde pour l'adresse à manier la lance et à conduire leurs chevaux. Quelle humiliation pour ces guerriers d'avoir à combattre leurs frères. Mais la promesse de leur souverain était sacrée et devait être accompli. Mahomet eut le déplorable avantage de contribuer, par sa valeur personnelle, à cette conquête si importante pour les chrétiens. Mais il eut l'honneur bien réel d'obtenir de Ferdinand un traitement pour les vaincus plus humain que ne le comportaient les usages de la guerre à cette époque. Après que la célèbre ville de Séville se fut rendue en 1248 au roi de Castille, Mahomet retourna, plein d'affection et d'inquiétude, dans ses états. Il ne voyait que trop les maux qui menaçaient les musulmans. Et souvent on l'entendait répéter dans ses moments d'anxiété. Combien notre vie serait bornée et misérable si notre espérance n'était pas aussi haute, aussi étendue. Que angosta y miserable sería nuestra vida si no fuera tan dilatada y espaciosa nuestra esperanza. Quand le triste vainqueur approcha de Grenade, le peuple sortit en foule, avec une joie impatiente pour le revoir, car il l'aimait comme son bienfaiteur. On avait érigé des arcs de triomphe sur son passage, en l'honneur de ses exploits. Et partout on le saluait du nom de El Galib, le victorieux. Mahomet s'écria lorsqu'il entendit cette appellation. « Voilà Galib, il a Allah, Dieu seul est victorieux. » Depuis ce temps, il adopta cette sentence pour devise. La fit inscrire sur son écusson en bande transversale, et ses descendants la conservèrent toujours. Mahomet avait acheté la paix en se soumettant au joug chrétien, mais il savait que des éléments discordants ne peuvent rester longtemps unis, et que les motifs d'hostilité entre les musulmans et les anciens possesseurs de la péninsule étaient trop grands et trop invétérés pour que l'on pût se flatter d'une longue trêve. Agissant donc d'après ce vieil adage, arme-toi même en temps de paix, couvre-toi même en été. Il profita de l'intervalle de tranquillité dont il jouissait pour fortifier ses villes, remplir ses arsenaux d'armes et de munitions, et encourager tous les arts utiles qui donnent aux États des richesses et un pouvoir réel. Il accorda des privilèges et des récompenses aux meilleurs artisans, s'occupa du perfectionnement des races de chevaux et d'autres animaux domestiques, protégea l'agriculture et augmenta la fertilité naturelle du sol par les canaux d'irrigation qui faisaient fleurir ces belles vallées comme des jardins. Il provoqua aussi l'établissement et les progrès des manufactures de soie. Et les métiers de Grenade surpassèrent bientôt ceux de Syrie pour la beauté et la finesse de leurs produits. Il fit exploiter des mines d'or et d'argent découvertes dans les hautes montagnes du pays, et fut le premier roi de Grenade qui fit frapper à son effigie de la monnaie d'or et d'argent dont les coins étaient gravés par des mains habiles. Ce fut vers le milieu du XIIIe siècle, et peu de temps après son retour de Séville, que Mahomet al-Ahmar fit commencer le superbe palais de l'Alhambra, inspectant les ouvrages en personne et se mêlant aux artistes et aux ouvriers pour les diriger dans leurs travaux. Ce prince si grand, si magnifique dans ses entreprises et ses monuments, était simple et modeste dans toutes ses habitudes privées. Ses habits étaient absolument dénués de luxe et ne se distinguaient en rien de ceux de ses sujets. Son harem ne possédait qu'un petit nombre de beautés. Il les visitait rarement, mais les entourait de toutes les jouissances de la grandeur. Ses femmes appartenaient aux premières familles du royaume. Il les traitait comme des amies, des compagnes raisonnables. Et, ce qui semble plus difficile, il vint à bout de les faire vivre en amies les unes avec les autres. Il passait une partie de son temps dans les jardins, surtout dans ceux de l'Alhambra, qu'il avait enrichi de plantes rares et des plus belles fleurs. Là, il prenait plaisir à lire ou à se faire lire et conter des histoires. Et dans ses moments de loisir, il instruisait ses fils, dont il avait confié l'éducation à des hommes éclairés et vertueux. Comme il s'était soumis franchement et volontairement à reconnaître Ferdinand pour son seigneur suzerain et à lui payer un tribut, il resta fidèle à ses engagements et donna au roi de Castille des preuves répétées de son attachement et de sa loyauté. Quand Ferdinand mourut à Séville en 1254, Mahomet envoya des ambassadeurs à son successeur, Alphonse X, avec une suite composée de 100 chevaliers maures d'un rang illustre qui devaient entourer le cercueil du roi pendant les cérémonies funèbres en tenant un cierge à la main. Ce grand témoignage de respect fut réitéré pendant toute la vie du roi musulman à chaque anniversaire de la mort de Saint Ferdinand. Et l'on voyait à cette époque arriver à Séville 100 chevaliers grenadins qui prenaient place avec leurs flambeaux allumés dans la somptueuse cathédrale autour du cénotaphe de l'illustre défunt. Mahomet Abou al-Ahmar conserva ses facultés jusqu'à un âge très avancé. Dans sa 79e année, il se mit à la tête de sa chevalerie pour repousser une invasion. Comme l'armée sortait de Grenade, l'un des adalides ou guides rompit accidentellement sa lance contre l'arc de la porte. Les conseillers du roi, alarmés de cette circonstance qu'ils considéraient comme de mauvais augure, supplièrent ce monarque de rentrer dans son palais. Leur supplication fut vaine. Il persista, et, selon les chroniques, le présage fatal s'accomplit avant midi. Mahomet, saisi d'un mal subit, faillit tomber de son cheval. On le plaça sur une litière. Mais les accidents devinrent si graves qu'il fallut planter une tente sur la Vega où il fut déposé. Ses médecins étaient dans la consternation et ne savaient quel remède lui donner. Au bout de quelques heures, il mourut en vomissant le sang dans des convulsions horribles. Le prince de Castille, Don Philippe, frère d'Alphonse X, était à ses côtés lorsqu'il expira. Son corps embaumé fut mis dans un cercueil d'argent et enseveli dans un superbe monument de marbre érigé dans l'Alhambra au milieu des lamentations sincères de ses sujets qui le pleuraient comme un père. Tel fut le prince éclairé et patriote qui fonda l'Alhambra et dont le nom se retrouve dans ses ornements les plus précieux. La mémoire de ce roi éveille dans l'esprit de ceux qui foulent le sol de ce palais, autrefois témoin de sa gloire, les idées les plus élevées. On dit que, malgré la grandeur de ses entreprises et les énormes dépenses qu'elles exigeaient, ses coffres n'étaient jamais vides. Et cette contradiction apparente donna lieu à supposer qu'il était versé dans l'art magique et possédait le secret de changer en or les plus vils métaux. Mais si l'on observe sa politique, on devinera facilement par quelle magie simple et naturelle il remplissait ses trésors.